Chapitre 3. Je ne sais si Henri-Louis Roulet employait à l'égard de son fils le genre de raisonnement recommandé par Fritz, mais son argumentation fut sans doute convaincante, car le spirituel Philippe vint en classe le samedi suivant d'un air suffisamment contrit et fit des excuses passables. Qu'il fût repentant à salut, c'est ce dont Marie doutait fort, mais il se conduisit d'une manière convenable cet après-midi-là. Bouquet se montra aussi fort différent de ce qu'il avait été le premier jour. Lorsque la leçon de calcul commença et que les autres élèves furent occupés à leurs problèmes, Marie vint s'asseoir à côté de lui et, s'armant de patience, elle recommença ses démonstrations. Mais son étonnement fut grand lorsqu'elle s'aperçut qu'il savait aujourd'hui parfaitement son livret et qu'il semblait n'avoir fait que des divisions toute sa vie. Le regard surpris qu'elle lui lança parut l'embarrasser d'abord, ses joues brunes rougirent un peu, mais il prit son parti et dit à voix basse, tout d'une haleine, comme s'il récitait un discours préparé à l'avance, « Il y a longtemps que je le savais, mais je ne veux pas faire les factures de mon maître. Il m'exploite assez déjà, ce vieux coquin !» Son œil lança un éclair et il serra les lèvres pour retenir une bordée d'épithètes peu flatteuses qui était sur le point de lui échapper. Marie allait parler, mais il reprit « Je ne veux plus vous donner de peine parce que vous êtes bonne, mais vous ne le direz pas au maître. » Marie réfléchit un instant. « Je ferai ce qui sera loyal et juste, suivant les circonstances, » répondit-elle. « Faites de même. » Un sentiment mêlé de satisfaction et de surprise la poursuivit jusqu'à la fin de ses leçons. Elle ne pouvait imaginer par quel moyen elle avait gagné si subitement la confiance de ce singulier garçon. « Parce que vous êtes bonne, » avait-il dit. Mais elle ne lui avait pas témoigné une sollicitude particulière et il ne la connaissait d'ailleurs que depuis 2 ou 3 jours. Elle y rêvait encore lorsque 4 heures sonnèrent. Tout absorbée dans ses réflexions, elle ne remarqua pas la lenteur étonnante avec laquelle Philippe Roulet faisait ses préparatifs de départ. Et lorsqu'il sortit enfin le dernier de tous, elle répondit avec distraction à son beau salut. « Il faut que je raconte celle-là à Madame Jacquot, » se dit-elle en mettant son manteau. « Elle connaît mieux que moi le caractère de ce bizarre garçon. Je suis sûre de l'avoir suspendu à l'espagnolette de la fenêtre. » Elle regarda de tous côtés et chercha longtemps, mais en vain. Enfin, bien que ce soupçon lui fût très désagréable, il lui parut évident qu'un mauvais plaisant avait emporté son capuchon ou l'avait caché de manière à le rendre introuvable. Très contrariée, elle mit son foulard sur ses cheveux et sortit. Mais à peine avait-elle fait un pas que ses pieds s'embarrassèrent dans un obstacle invisible. Elle chancela une seconde, étendit les bras et tomba de tout son long sur la neige. La chute fut rude et Marie se releva l'épaule meurtrie. Très ébranlée et faisant effort pour retenir ses larmes, elle se baissa de nouveau pour chercher de la main le piège qu'elle avait rencontré. C'était une ficelle tendue non loin du seuil de la porte, attachée par un bout au racloir et retenue de l'autre par une lourde pierre, le tout dissimulé sous la neige. Avant de s'éloigner, Marie promena autour d'elle un regard scrutateur, mais elle ne vit rien et se hâta de revenir à la maison. Lorsqu'elle raconta ses mésaventures à ses hôtes, ils s'en indignèrent plus vivement qu'elle encore. « C'est ce petit scélérat de Philippe qui a fait le coup, » dit Madame Jacquot tout en colère. « Ce drôle-là finira ses jours au pénitencier, et ce sera encore bien trop bon pour lui, puisqu'on prétend que ces messieurs les détenus ont leur chocolat sucré tous les matins et des concerts de mandoline pour leur adoucir le caractère. À présent, voilà votre beau capuchon perdu, Dieu sait jusqu'à quand. » « On le retrouvera, » fit laconiquement Jules Jacquot. Puis il se rendit à l'écurie, car c'était l'heure de traire. Lorsqu'il eut fini, il chargea la bouille sur son dos pour porter le lait à la fruitière, et aussitôt qu'il eut fait un pas hors de la maison, quel fut le premier objet qui frappa ses regards? Le capuchon de Marie, suspendu à une des lattes qui formait la barrière du petit jardin. Il le prit soigneusement, le mit sur son poing, examina un instant d'un air rêveur les sous-taches d'or qui le couvraient de capricieuses arabesques, puis rentra dans la maison et le posa sans mot dire sur le dossier d'une chaise. Aussitôt, il se hâta de ressortir, un falot allumé à la main, car la nuit commençait à tomber. Après avoir appuyé sa bouille avec précaution contre la muraille, il se pencha sur la neige et, projetant à droite et à gauche la lueur de sa lanterne, il examina avec le plus grand soin quelques empreintes de pas qui, s'écartant du sentier, se dirigeaient vers la barrière du jardinet. Il chercha la plus nette et se pencha encore davantage pour la voir de tout près. « Voilà une fameuse signature, » dit-il avec satisfaction. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 clous de chaque côté et un losange au milieu. Bon !» Il remit alors sa bouille sur son dos et s'en alla en se frottant les mains. Un quart d'heure après, il revenait de la fruitière, tout pensif et la tête baissée, lorsqu'il aperçut à une vingtaine de pas Philippe Roulet qui, poussé par la destinée, s'avançait sans défiance à la rencontre du châtiment. Jules Jacquot continua à marcher sans même lever la tête, mais quand Philippe le croisa dans l'étroit sentier, il se baissa tout à coup et le saisit par une jambe si rudement que le garçon, privé subitement d'un de ses appuis naturels, décrivit avec les bras un moulinet désespéré et tomba de tout son long la face dans la neige. « La terre est un peu dure, hein ?» fit Jules d'un ton goguenard. « Allons, drôle, ne te démène pas tant. Il faut que je voie quel maréchal t'a ferré. » Puis il se mit à examiner la semelle de son prisonnier avec le plus grand flegme. Ainsi, tenu le pied en l'air et faisant de vains efforts pour se dégager, Philippe Roulet ne ressemblait pas mal à un de ces petits porcs rebelles qu'on emmène de la foire par une corde attachée à leurs pieds de derrière. 1, 2, 3, 6, 8 clous de chaque côté et un losange au milieu, c'est bien ça, dit Jules en terminant son examen. Maintenant, mon garçon, continua-t-il en ne lâchant le pied que lorsqu'il tint solidement son prisonnier au collet, nous allons régler nos comptes. Tu as fait tomber Mademoiselle Calame et tu es tombé toi-même, c'est en règle. Mais voici pour le capuchon. Et les soufflets commencèrent à pleuvoir, drus comme grêle. Deux à droite, deux à gauche, une calotte sur la tête, encore un soufflet à droite, encore un soufflet à gauche, et puis un bon pour finir. Maintenant, on va te chauffer les oreilles. C'était l'organe sensible chez Maître Philippe. Il avait supporté assez stoïquement les soufflets, en cherchant à les parer avec son bras, mais lorsqu'il sentit ses chères oreilles dans les pinces de Jules Jacquot, il commença à se tordre et à crier grâce. L'exécuteur continua néanmoins avec un parfait sang-froid, puis, lorsqu'il jugea la correction suffisante, il posa ses lourdes mains sur les épaules du garnement. « Si tu n'as pas envie d'une autre étrier, sois sage !» lui dit-il. Alors il le lâcha et s'en alla paisiblement. Philippe Roulet profita de sa liberté pour mettre entre lui et l'étau redoutable de Jules une distance respectueuse, puis il s'arrêta et soulagea son cœur plein de rage en lançant après lui toutes les injures d'usage et une quantité d'autres qui faisaient honneur à son imagination. Jules Jacquot s'en émut aussi peu que des flocons que le vent jetait sur sa jaquette. Revenu à la maison, il dit seulement qu'il avait trouvé le capuchon sur la barre du jardin et qu'il pensait que le farceur avait eu son compte. Marie ne sut jamais qu'il s'était fait son champion et s'étonna de la servilité de chien couchant que Philippe Roulet lui témoigna dès lors. Le même soir, Jules, fidèle à la mission dont il s'était chargé, sortit vers 8 heures, ce qu'il avait déjà fait la veille, et se dirigea vers la maison hantée. Il franchit le pont de grange, s'approcha de la porte de la classe et, collant son oreille à la serrure, il écouta longtemps. Tout était parfaitement silencieux à l'intérieur. Les volets clos ne laissaient pas filtrer le moindre rayon de lumière par leurs nombreuses fentes. Aucune ombre suspecte, aucun bruit insolite ne se laissèrent surprendre par l'oreille et l'œil attentif du patient observateur. Pour l'acquis de sa conscience, il fit encore une fois le tour de la maison. Puis, tout transi par sa garde nocturne, il s'éloigna rapidement. Mais à peine avait-il disparu dans l'obscurité que deux ombres furtives sortirent doucement de derrière un tas de bois qui les avait cachés, se glissèrent sans bruit le long de la muraille, puis, arrivés à la porte de l'écurie, l'entr'ouvrirent et s'éclipsèrent. « Vous dînez demain chez Monsieur le ministre, n'est-ce pas ? demandait Madame Jacquot à Marie. « Oui, vous avez entendu qu'il m'a invité. N'oubliez pas de lui dire que mon fils Jules se rappelle la promesse qu'il lui a faite et qu'il a déjà monté la garde 3 soirs de suite autour de chez les Vermeaux. Ça n'a pas de bon sens, mais enfin, quand on a promis, il faut tenir. Monsieur Jules n'a rien découvert. Que voulez-vous qu'on découvre quand il n'y a rien ? Ce revenant, c'est une affaire finie, personne ne l'a vu depuis tantôt 2 mois et l'on n'y penserait seulement plus si monsieur le ministre ne l'avait pas remis sur le tapis. En tout cas, vous pouvez lui dire que Jules fait de son mieux pour attraper un gros rhume et que s'il n'y réussit pas, ce n'est pas sa faute. »